au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le 24 mai dernier, les autorités gabonaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur des témoignages faisant état de maltraitance et d'abus sexuels contre des joueuses de l'équipe nationale de football de moins de 20 ans. Avec 44 buts encaissés et aucun marqué en 5 rencontres à la Sud Ladies Cup à Marseille en France, les joueuses auraient également connu des moments difficiles en coulisses, selon des témoignages disant qu'elles auraient été victimes d'agressions sexuelles et étaient entassées à plusieurs sur des matelas dans des chambres d'hôtel. Des informations font état de maltraitance, de harcèlement sexuel, d'attouchement et de viol qu'elles auraient subis de la part de certains membres de l'encadrement technique et administratif de l'équipe, a indiqué le ministre des Sports Alain-Claude Bilibinzé dans un communiqué. Le 29 mai dernier, un Sénégalais a été condamné à 6 mois de prison avec sursis après avoir appelé sur Facebook à tuer les femmes en réaction au meurtre d'une jeune fille le 18 mai à Tambacounda. Ousmane Mbengue a été reconnu coupable de provocation et incitation à la commission d'un crime ou d'un délit, mais relaxé du chef d'apologie du crime. À l'audience du 27 mai, la procureure avait requis 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Délégué médical de profession, le jeune homme qui se présente comme artiste et comédien a affirmé que ce message était une plaisanterie. Selon l'AFP, il était déjà condamné à 6 mois de prison avec sursis pour menace envers son ex-épouse. La ville de New Delhi en Inde va rendre gratuits les transports publics pour les femmes afin de renforcer leur sécurité. Selon une annonce du 3 juin, la mesure devrait concerner environ 850 000 femmes pour un coût estimé à 115 millions de dollars par an. Le gouvernement régional envisage également d'installer 150 000 caméras de vidéosurveillance dans la ville cette année. Le réseau des transports publics de la capitale indienne est peu performant et le doublement de certains tarifs de métro contraint de nombreuses personnes à se déplacer à pied, en particulier les femmes. Le 3 juin dernier, des Japonaises ont signé une pétition pour protester contre l'obligation de fait imposée aux femmes de porter des chaussures à talons au travail. La campagne Q2 lancée par l'actrice Yumi Ishikawa a rapidement remporté le soutien de nombreuses personnes. Les militantes soulignent qu'il est quasiment impossible d'échapper aux talons hauts lorsqu'on cherche un travail et une fois admise dans un bureau. Elles demandent une loi interdisant aux employeurs de forcer la gente féminine à porter des talons, ce qui est de la discrimination et constitue un harcèlement, a déclaré Madame Ishikawa après s'être entretenue avec des responsables du ministère du Travail. Un cas semblable a eu lieu en 2017 au Canada, dans la province de Colombie-Britannique, qui avait interdit aux entreprises de forcer leurs employés à porter des talons hauts, qualifiant cette pratique de discriminatoire.
Parole de femme.
L'accès des femmes à l'emploi représente un enjeu de premier plan pour lutter contre leur vulnérabilité. Une des solutions les plus largement proposées est la coopérative. Ce type d'organisation du travail connaît un fort développement en Afrique de par sa fiabilité et son fort potentiel de rendement à partir de peu de moyens. Car l'union fait la force, comme on dit. En Centrafrique, une coopérative regroupant des femmes s'est créée récemment sous le nom de Ndara, signifiant le savoir en sango. Les initiatrices veulent valoriser leurs talents à travers l'artisanat. De Bangui, Pascal Serra nous emmène à leur rencontre.
C'est dans ce garage modeste que se retrouve un groupe de femmes avec un objectif commun, confectionner des objets d'art uniques. La vente de ces produits faits avec des matériaux locaux permet de soutenir par la même occasion ces artisanes en leur permettant d'avoir des revenus stables, d'avoir accès à une formation professionnelle et d'acquérir le sens du développement des affaires, comme le précise Inès Somamako, assistante gérante de l'association Ndara.
Dans l'association Ndara, notre but dans cette association, c'est d'aider les filles à faire quelque chose, à produire quelque chose de leurs mains. On produit des tapis en paille, on fabrique les éléphants, c'est des jouets, on fabrique les pangolins, les sets de table, beaucoup des objets artisanaux. Donc on les fabrique en tissu paille. Vous avez vu comment les filles travaillent? Elles sont trop belles, bien habillées, bien sapées, vraiment propres. C'est à cause de ce travail. Elles sont vraiment valorisées par les produits de leurs mains. Il y a en tout cas beaucoup de choses qui ont changé dans notre pays. Ce que je peux dire aux jeunes filles, de se ressaisir, chercher à faire quelque chose de leurs mains, protéger leur famille, pour aider leur propre vie aussi.
Ce qui fait aussi la particularité de cette coopérative est surtout son aspect social. En effet, parmi les femmes présentes, une majorité exerce ses activités comme étant des mesures thérapeutiques suite aux événements tragiques que traverse la République centrafricaine. Ramatou Garga, membre de l'association, témoigne.
Ça détruit tout. Il m'est arrivé quelque chose de terrible dans le village où j'habitais. Tous mes biens ont été pillés et détruits. Je n'avais plus rien, que ce soit de l'argent, des vêtements et même mon stock de sel pour faire mon commerce. Ils ont tout détruit. J'ai failli perdre connaissance. On tuait les gens sous mes yeux. Ce travail que je fais m'aide. Quand je viens travailler ici, cela me permet d'avoir un peu d'argent. Je veux une maison et je fais la scolarité de mes enfants et je les nourris.
En conclusion, les femmes sont formées à la fabrication des produits, mais aussi à la gestion des affaires, au marketing, et par la même occasion, elles sont soutenues dans le processus de la résilience. Au sein de cette coopérative, avoir du Ndara, c'est non seulement être qualifié, mais c'est aussi reprendre goût à la vie.
Une société russe a proposé d'offrir des primes à ses employés qui viennent au travail en jupe et bien maquillés. L'entreprise a pris cette initiative pour embellir les journées de travail, a déclaré une communicatrice de la compagnie Tatprof, Anastasia Kirillova, et d'ajouter, je cite, « Beaucoup de femmes mettent un pantalon automatiquement. C'est pourquoi nous espérons que cette action permettra à nos dames de sentir leur féminité et leur charme lorsqu'elles opteront pour une jupe ou une robe. Ainsi, pendant un mois, chaque employé aura une prime de 100 roubles par jour, environ 1,53 $, s'il remplit les conditions du marathon de la féminité. » Cette initiative sexiste a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, où un canal populaire sur Telegram l'a notamment qualifié de « retour à l'âge des ténèbres ».
Si je ne pouvais.
De nombreux petits Africains handicapés ne vont pas à l'école, faute d'établissements adaptés à leurs conditions. Très peu d'argent est investi dans ce domaine en Afrique subsaharienne, où cette population n'est pas toujours sérieusement prise en compte. En effet, la plupart des obstacles auxquels font face les personnes handicapées concernent l'accès aux infrastructures publiques, à l'éducation et à l'information. Au Sénégal, le centre verbotonal participe à l'éducation des enfants atteints de déficience auditive afin de leur permettre de communiquer et d'être autonomes. Seydina Abagay est allée à la rencontre de ses enseignants et élèves à Dakar.
Matinée de cours au centre verbotonal de Dakar, les élèves de la classe préparatoire se concentrent sur le cours de rééducation de cabine. Les appareils auditifs bien fixés aux oreilles, ces élèves sourds-muets participent. Moustapha, 8 ans, répond aux questions de son maître David Natarang.
Comment t'appelles-tu?
Toi, ma, pa, papa.
Oui, papa.
Papa.
À la maison.
Assis à côté d'un amplificateur, micro à la main, David, le rééducateur de cabine de ce centre, explique.
Je prends des enfants qui ont des difficultés à prononcer, à verbaliser certains mots ou bien des phrases, et je vais en aide pour les amener à s'exprimer d'une manière assez audible. Un enfant, au départ, qui ne savait pas articuler un problème et qui parvient à dire des phrases maintenant, c'est génial.
Génial, c'est ce que disent également les parents d'élèves qui, grâce au centre, parviennent à parler facilement avec leurs enfants sourds. Betty Gay montre toute sa satisfaction quant au progrès de son fils Fallou.
Avant, mon fils était complètement sourd et muet. Mais depuis qu'il a intégré ce centre, Fallou parle normalement. Il dit clairement j'ai faim ou je veux telle ou telle chose. Il parle presque comme les autres.
Aïssatou Camara abonde dans le même sens. Sa fille continue aujourd'hui ses études à l'école Saint-Julien-Emar. Elle fait la classe de CE1 et s'en sort plutôt bien.
Ma fille étudie ici, mais elle a été transférée dans une autre école. Elle parle comme tous les autres élèves. Même sa maîtresse me dit qu'elle se fait facilement comprendre. Tout cela, c'est grâce à ce centre. Elle a de bonnes notes d'ailleurs. Elle est classée 9e lors de la dernière composition.
Situé au quartier Gueltapé de Dakar, le centre verbotonal a ouvert ses portes en 1980. La directrice Fatoumata Soumarello revient sur la spécificité de l'établissement.
C'est un centre qui accueille des enfants déficients auditifs, communément appelés sourds-muets. Comme son nom l'indique, c'est un centre spécialisé, donc c'est des enfants déficients auditifs qui sont admis dans ce centre-là. Pas tous, évidemment. C'est un établissement public, donc nous prenons en charge les enfants dans la mesure de nos possibilités. Les enfants sont testés. Et à l'issue de ce test, tous ceux qui présentent des potentialités pour la méthode sont recrutés. Bon, c'est une méthode oraliste, appelée méthode verbotona. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de reconstituer un peu le processus d'acquisition du langage chez l'enfant. Donc il y a une phase de démutisation que nous faisons, au préscolaire, pour permettre à l'enfant de retrouver du langage et de poursuivre un cursus scolaire.
Ils sont aujourd'hui une cinquantaine d'élèves qui au départ ne pouvaient ni entendre ni parler, mais actuellement ils parviennent tant bien que mal à communiquer avec les autres. Ils partagent tous le même objectif, participer en toute égalité au développement de leur pays. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Pour rappel, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en décembre 2006 la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L'ONU estime à plus de 650 millions le nombre de personnes handicapées dans le monde, dont plus de 500 millions dans les pays en développement.
Et oui, et si la jeunesse pouvait ?
Le 29 mai 2019 est né le plus petit bébé à être venu au monde en vie dans un hôpital de San Diego, en Californie. Né à seulement 23 semaines et 3 jours de grossesse, le bébé de sexe féminin pesait 245 grammes à la naissance. Elle est rentrée chez elle après 5 mois de soins intensifs. Les médecins avaient décidé de pratiquer une césarienne en urgence car des complications mettaient la vie de la mère en danger. Saïbi n'a quasiment connu aucun des problèmes généralement associés aux très grands prématurés comme des hémorragies cérébrales ou des problèmes pulmonaires et cardiaques, relève l'hôpital. Selon le registre des plus petits bébés au monde, tenu par l'Université américaine de l'Iowa, Sabi a battu le record précédemment détenu par un enfant né en 2015 en Allemagne qui pesait 7 grammes de plus qu'elle.
Entre parenthèses.
Depuis des générations, de nombreux paysans africains récoltent les fruits du palmier sauvage ou de petites exploitations en vue d'une consommation locale. Le palmier à huile reste un élément essentiel de leur alimentation et moyen de subsistance. Selon la FAO, ce système de production est menacé par les plantations industrielles, les accords de libre-échange et les chaînes de valeur contrôlées par des intérêts corporatifs au détriment des systèmes communautaires. À ce propos, le Cameroun veut développer le secteur de la transformation locale de l'huile de palme. Selon notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, voici son reportage.
Le gouvernement camerounais ne le cache pas. Le secteur de la transformation d'huile de palme rapporte à l'État plus de 100 milliards de francs CFA par an au travers de la commercialisation à l'extérieur. Des savons, des détergents, des huiles végétales ou encore des bougies fabriquées dans des usines appartenant aux Camerounais. Le gouvernement souhaite que ce secteur garde de telles performances économiques et veille au grain.
Pour moi, être satisfait que l'huile raffinée d'origine camerounaise est de bonne qualité.
Docteur Emmanuel Nkoulou Ada, président du comité d'organisation des oléagineux du Cameroun. Il a conduit récemment la mission d'évaluation des usines de transformation d'huile de palme dans les régions du littoral et de l'ouest.
Nous sommes allés voir l'état des stocks, voir si ces unités ont eu des aménagements nouveaux à l'effet de s'assurer que la demande qui induit pourra être satisfaite par l'offre. Au niveau de l'approvisionnement, nous sommes sans inquiétude. Au niveau de la qualité, nous sommes en train d'aller progressivement vers une amélioration qualitative des produits que les transformateurs sont en train d'offrir.
Selon les statistiques du ministère du Commerce, c'est au sein de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun que sont produits 95% des huiles végétales consommées localement. Mais la capacité nationale de production d'huile de palme brute reste très faible. Elle est de 370 000 tonnes, alors que la capacité de transformation est située à 1 057 000 tonnes par an.
Quand on est en situation de déficit, comme c'est le cas, il faut réguler.
Jacques Kemli, secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC.
Avant, chacun a acheté en fonction de sa capacité financière. Aujourd'hui, on a dit que toutes les entreprises emploient, quand bien même leur taille serait réduite. Il était donc loisible qu'on s'assure que l'huile de palme qui est produite sera répartie de façon équitable.
Sur le marché et dans les rayons, les produits de la transformation locale de l'huile de palme ne laissent pas indifférents les consommateurs de Yaoundé.
Quand j'entre dans un supermarché, j'aime les savons de Marseille fabriqués au Cameroun. Je suis satisfait de la qualité de la norme et du prix.
La plupart des détergents que j'aime utiliser, c'est ça parce que ça mousse plus que d'autres.
Nous avons Azur, que nous utilisons souvent comme savon du Cameroun.
Reste que ce secteur, l'un des rares à être bien organisé d'après les experts, fait face à une certaine concurrence déloyale.
Le véritable problème se pose au niveau des huiles raffinées non conformes.
Docteur Emmanuel Nkoulou Ada, président du comité d'organisation du secteur des oléagineux.
Dès lors que le jeu concurrentiel est faussé, dès lors que les huiles importées ne respectent pas la réglementation et sont donc non conformes, ça devient un danger. D'abord pour l'économie camerounaise et même pour la santé des populations.
La production nationale d'huile de palme brute dans la région du sud-ouest en zone anglophone reste une préoccupation majeure. Les deux grandes unités de production de cette région payent les conséquences de la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Oh,
batia lera boira cha mecha chigenda boira chimano boira iye baba
unane
unane unane
oje chukaito
unane komeni naye
unane
baitia
oh
amura
oh
aya baba rure
rumana
aya baba rure
rumana re timbaronge
arura nyanja
rumana
Quittons un instant le continent africain pour se rendre au Yémen où 4 années de guerre civile dévastatrice pèsent lourdement sur les femmes et les enfants. La plupart des veuves doivent subvenir seules aux besoins de leur famille. Dans un village reculé du désert, l'ONG américaine International Rescue Committee a créé un centre de formation et d'autonomisation des femmes et filles en situation de vulnérabilité. Voici un reportage de Néa Vadekar, relaté par Raïssa Girondin.
Abdulwazi, mère de 5 filles, a fui les combats dans son village natal de Ras Amran. Et comme de nombreux hommes yéménites ont perdu leur source de revenus, et certains même leur vie, les femmes et les jeunes filles se retrouvent sur un territoire inconnu en tant que principal soutien de la famille. Abdulwazi et ses filles apprennent donc de nouvelles compétences.
Nous sommes en train d'apprendre pour sortir de la pauvreté et aider nos familles. Regardez-moi, mon mari est malade, alors mes filles et moi, nous prenons la relève.
Abdulwazi et ses filles assistent au cours du centre Al-Bourika, créé par l'International Rescue Committee pour autonomiser les femmes yéménites. Les travailleurs sociaux du centre disent qu'environ 50 femmes et jeunes filles sont formées chaque jour où ils passent tout simplement du temps, comme l'explique Fayrouz Yassine.
Dans cette région, elles sont très traditionnelles. Les femmes ne sortent pas parce qu'elles ne veulent pas se mêler aux hommes. Si elles vont dans d'autres endroits pour apprendre, comme à Sheikh, Aden ou Krater, elles doivent prendre les transports en commun. Mais elles ont leur mari à la maison qui leur interdit de quitter les lieux.
Pour des femmes comme Abdulwazi, c'est aussi l'occasion de se libérer des normes culturelles conservatrices du Yémen et d'entrer enfin sur le marché du travail.
Avant, les femmes étaient oubliées, mais quand ces organisations sont venues, à cause de la guerre, nous avons pu développer et améliorer nos compétences.
Le centre fournit également des conseils sur les problèmes et les abus liés au genre qui, selon les enquêteurs, ont fortement augmenté avec les combats dans le pays.
Nous avons constaté qu'à cause des pressions auxquelles certains hommes sont confrontés, ils commencent à se livrer à la violence domestique. Les hommes dissipent toute leur colère sur leurs femmes.
Le centre est déjà en train de changer la dynamique entre les sexes dans la communauté. Abdulwazi dit que son mari la soutient dans son projet d'ouvrir un jour son propre atelier de couture et de le gérer avec ses filles.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voafrique.lmf pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous à la production. C'était Georges Léonard Sagnot. On reste en contact. À très bientôt et bon courage.
Arrête.